Je suis en compagnie de Nilik et nous allons interviewer donc Rodolphe, l'écrivain des musiques et le guitariste du groupe L'Agapette.
Donc, salut à vous.
Alors, peux-tu te présenter pour commencer ?
Ben voilà, moi je m'appelle Rodo, donc voilà, je suis auteur-compositeur pour le groupe L'Agapette, qu'on a créé, j'ai commencé il y a 12 ans maintenant, et puis avec tout de suite l'envie d'avoir un bon nombre de collègues avec moi, mais bon, ben voilà, il a fallu donc commencer en trio, écumer un petit peu tous les bistrots de France. Et puis petit à petit, et au fur et à mesure des rencontres, et puis voilà, pour des raisons économiques aussi, petit à petit, ben, on avait les moyens d'agrandir la famille. Et puis voilà, aujourd'hui on est 6 sur scène et 2 de plus, 2 techniciens dans le camion. Et on parcourt toujours la France et un petit peu l'Europe. Voilà.
Ok, super. Et pourquoi avoir choisi du coup comme nom L'Agapette ?
Alors L'Agapette, ça venait... je sais pas si ça s'appelle, si tout le monde sait, ça dépend des endroits en fait, mais l'agapette c'est une forme de casquette en fait. Et c'est celle, on va dire c'est une casquette qui était assez atypique parce qu'elle est portée un petit peu par tout type de personnes, étant donné que moi je crois beaucoup à la mixité, etc. Et je pense que des chansons comme ce qu'on fait dans l'agapette peuvent être écoutées aussi bien par... des petits anciens qu'on voit avec l'agapette qui sortent du bistrot, aussi bien que les jeunes, les moins jeunes. Il peut y avoir un côté tough, un côté classe, un côté... l'agapette peut cacher beaucoup de personnalités différentes dessous, ce qui est peut-être notre cas.
Ouais. Okay. Et votre groupe a évolué parce qu'à la base c'était un trio et maintenant vous êtes 6. Comment vous êtes tous rencontrés et est-ce qu'à la base ça s'appelait l'agapette ?
Alors ça s'est toujours appelé l'agapette, effectivement. Et les rencontres, en fait, moi je venais pas du tout du milieu musicien, mais c'est vrai qu'à force de jouer partout, on fait des rencontres plus qu'agréables. Et puis c'est comme un moment quand on pense à ramener un saxophoniste, on se dit on avait rencontré un tel. Et puis bon, je viens quand même de Bretagne où il y a vraiment un gros vivier de musiciens, voilà, tout autour de Rennes et tout, ça joue vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'événements, donc effectivement, c'est plus facile de faire des rencontres. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a dû y avoir plus d'une dizaine de musiciens depuis le début, quoi. Mais à chaque fois, ça se passe très très bien.
Et du coup, quels sont les différents instruments qu'il y a dans le groupe actuellement ?
Alors actuellement, on en a beaucoup, on est beaucoup à jouer de plusieurs instruments, donc on a... On a les guitares, bien sûr, donc on a guitare électrique, on a guitare classique, on a banjo, 4 cordes, il y a contrebasse, il y a batterie, saxophone alto, saxophone baryton, accordéon, qui est vraiment la pièce maîtresse du groupe, et trompette, trombone aussi. Voilà, donc tout le monde joue un petit peu de tous les instruments, donc voilà, on tourne un petit peu et on s'amuse à donner des couleurs différentes à chaque morceau.
C'est riche.
Vous pourriez nous dire un peu les influences musicales qu'il y a dans votre groupe ?
Alors les influences musicales, les miennes, on va dire, il y en a quand même pas mal, mais on va dire c'est tellement... je pense que pour faire de la musique, il faut écouter vraiment tous les styles. Donc effectivement, comme tout le monde, j'ai bien voyagé entre le reggae, le punk, pas mal, quand j'étais gamin. Mais par contre, c'est vrai que la chanson française, elle a toujours été là, un petit peu. Que ce soit les anciens, on va dire, qui sont plus là de nos jours et qui nous ont conduits. Puis des groupes aussi qui m'ont vraiment marqué, qui avaient... Ouais, c'est ça. Des groupes qui ont vraiment eu le don de raconter des vraies choses, quoi, je trouve. Des groupes comme La Tordue, moi, c'est un groupe... je trouve exceptionnel. En chanson française, en tout cas, dans ce registre-là, je trouve que c'est vraiment super. Et puis, Et dans le groupe, on a vraiment tous des influences vraiment différentes. Après, on a aussi la musique jazz manouche. On joue tous un peu du jazz manouche en dehors, de la musette. Donc, on aime bien ce genre de vieux trucs, et puis surtout parce qu'il y a des histoires, la façon de consommer la musique était différente aussi, donc ça, C'est assez marrant et intéressant.
Ok. Du coup, on dit que vos textes sont parfois engagés. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça?
Engagé, enfin, tout, à partir du moment où on écrit, où on fait de la musique, on est engagé, en fait. Moi, j'aime pas trop la catégorie engagée, c'est assez spécial, parce que je trouve que de toute façon, déjà, monter sur scène et raconter des choses, c'est déjà politique, c'est déjà engagé. Le fait de croire... alors nous, engagés, peut-être pas dans les morceaux, après on essaye entre les morceaux, en tout cas, de communiquer... effectivement, de donner du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire que on le dit souvent, on parle beaucoup du bistrot, on est très influencé du bistrot. Le bistrot, c'est un peu la vie, c'est un microcosme qui nous intéresse, en fait, qui reflète pas mal de choses. Et la scène, c'est un lieu où, effectivement, bah, ce soir encore, grâce à des initiatives et à des gens qui programment, il y aura des gens qui vont se mélanger, voilà, des gens différents qui viennent écouter des choses différentes. Et ne serait-ce que ça, c'est l'engagement, quoi. Après, le texte. En lui-même, on n'est pas. Il y a quelques morceaux forcément qui peuvent être qualifiés de plus engagés, mais bon, c'est toujours délicat cette. Les chansons engagées, c'est toujours délicat parce que faut pas tomber non plus dans le trop facile. Et puis, voilà, il faut assumer aussi sur scène. L'engagement, c'est déjà de monter sur scène et de jouer le jeu à fond et de partager, d'être franc et d'être honnête avec. Avec ce qu'on fait, voilà.
Rodolphe, on dit que vous êtes passionné de poésie.
Ouais.
Et quels sont vos auteurs préférés, vos auteurs un peu, ceux qui vous ont inspiré?
J'ai envie de dire, c'est... La poésie, ça m'a inspiré parce que scolairement, je suis tombé sur... j'étais pas un gros fou de l'école, mais par contre, je suis tombé sur quelques profs de français, ou des instituteurs, en tout cas, qui ont été un phénomène déclencheur, en tout cas pour apprécier toutes les poésies. Donc j'ai pas vraiment de... J'ai eu des modes... Ça, c'est la gapette que j'entends derrière, là. J'ai eu des auteurs plus ou moins à la mode, mais si je devais rendre hommage à... rendre hommage à un mec qui est pas connu, on sait jamais, mais c'est un mec qui s'appelle Frandol, qui jouait dans un groupe de rock qui s'appelle les Roadrunners. Je sais pas pour quelle raison il est pas... Il n'est pas connu dans la France entière, mais c'est incroyable. Si quelqu'un veut aller écouter des choses qu'il a faites dans ses deux albums éponymes, Frandol, c'est... voilà. Puis sinon, forcément, la poésie des résistants qui m'a beaucoup appris. Tout ce qui est René Char et tout ça, enfin voilà, les poètes de la résistance. Mais en règle générale, je trouve que aujourd'hui, chez certains auteurs, il y a des vrais poètes, quoi. Je trouve que voilà, des mecs comme Thomas Fersen ont fait des albums magnifiques. Il y a des gens vraiment. Après, j'ai un peu plus de mal avec. Moi, j'aime bien partir d'un point A et arriver à un point B, en fait. Je suis un petit peu pragmatique quand même. Il faut commencer une histoire et la finir, donc c'est un petit peu le truc. Mais après, en poésie, je vais pas étaler de noms comme ça parce que j'aime bien ce qui sonne.
Quel est votre état d'esprit lorsque vous écrivez? Est-ce que vous avez une ambiance particulière, des trucs à vous?
Ouais, je pense que j'ai. L'état d'esprit, j'y réfléchis beaucoup parce que là je suis en train d'essayer de faire un troisième album et que j'ai pas le même état d'esprit qu'il y a 5 ans ni qu'il y a 10 ans et que voilà, va falloir que je trouve encore. Il faut que je sois complètement libéré, quoi. Et ouais. Puis il faut aussi faire une pause, ce qu'on sait pas faire quand on fait de la musique.
On enchaîne.
Bah déjà pour des raisons économiques, parce qu'on a la chance d'en vivre. Mais ouais. En vivre, ça veut dire qu'il faut jamais s'arrêter non plus. Donc c'est pas évident, quoi. Et puis, il y a des choses qui ont changé aussi. Il y a une vie de famille, il y a tout ça. Donc, faut trouver le moyen de. Mais c'est vrai que voilà, bon, on est en Bretagne. Moi, ça m'arrive d'aller au bord de la mer. Mais c'est sûr que c'est des périodes où faut pas. Faut plus regarder la montre, quoi. Il y a pas de jour, il y a pas de nuit, quoi. Ça. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas vraiment de technique. Moi, je note
Je note des chutes dans le fil.
Dans un cahier, je note toujours tout et ça part d'une phrase. Et parfois, ça fait un morceau 5 ans après. Donc voilà, mais voilà. Et une phrase qui en recoupe une autre. Mais c'est vrai que des phrases one shot, voilà. Enfin, des chansons one shot comme ça en général, voilà, elles sont toutes arrivées comme ça. Il y a 3 phrases décrites et puis 3 ans après, le flash et du coup là, ça va de A à Z, quoi. Donc faut être patient, faut attendre, voilà.
Un peu comme la graine qui devient arbre plus tard.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà, j'attends là.
Donc vous préférez la scène au studio, c'est bien ça?
Ouais, bah oui, c'est un autre exercice. Après, le studio, c'est intéressant, mais le studio, ce qui est le plus stressant, je trouve, c'est d'imaginer les morceaux quand on est dans un niveau de groupe comme l'Agapette. On est obligé de penser encore que le disque va aussi être un support de communication et un support pour que les gens adhèrent. Donc on ne peut pas complètement se faire plaisir pour faire un album complètement studio et rajouter 5 violons, parce que si jamais on les a pas sur scène après, voilà, donc on est un petit peu... Mais bon, je pense que le 3e album, par contre, je vais prendre plus de plaisir, on va le penser comme un album, vraiment. Voilà, parce que c'est vrai qu'avant, on est toujours en train de se dire comment adapter ce qu'on fait sur scène, dans un studio. Donc voilà, il y a plusieurs écoles, quoi, mais la prochaine fois, je pense qu'on se fera on se laissera plus aller, je pense.
Est-ce que c'est différent en studio que sur scène, lorsque vous faites des musiques, c'est pas...
C'est différent, ouais. C'est différent parce que quand il y a un ingénieur du son qui va rechercher le joli son, il faut que tous les éléments de la chaîne soient dans un... Enfin, de manière optimale, il faut jouer vraiment... tiens, je vais essayer de jouer doux pour voir. Alors que bon, la scène, il y a un côté... on est en survie, il faut jouer 3-4, quoi. Et c'est parti, quoi. Donc c'est un peu différent, c'est vrai. C'est intéressant.
Et vous avez fait pas mal de voyages. Est-ce que les messages que vous essayez de transmettre dans vos textes sont reçus de la même façon partout?
Ouais, ça va, ouais, pas mal. Ouais, on est assez content là-dessus, parce que je pense que l'Agapette, on fait partie... c'est toujours dur de dire ça avant de jouer un concert, mais je pense qu'on fait partie des groupes... on est ce qu'on appelle des groupes indépendants, j'arrête de faire la queue pour signer chez Shepoki, enfin voilà, de toute façon, il faut que ça roule, donc on est en autonomie totale, notre tourneur, on a créé notre structure, on a mutualisé... Des postes administratifs avec d'autres groupes, etc. Et des groupes comme l'Agapette, je pense qu'il y en a facilement des centaines un petit peu partout en France, mais que les espaces d'expression sont de plus en plus rares, surtout dans les festivals, quoi. On va chercher, même à 18h ou 17h15, on préfère mettre une tête d'affiche à 30 000 euros. Et voilà, c'est souvent comme ça. Donc ça, c'est un truc, par contre, sans prétention, sans dire que ce qu'on fait, c'est mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui aurait peut-être une place, mais surtout il y a surtout un public qui aime à l'après et qui nous dit c'est super cette sincérité, ou ça va être d'autres choses en fait, et les gens vont... Donc voilà, c'est à la fois ça fait plaisir, et puis à la fois on se dit bah oui, nous aussi on aimerait bien rencontrer encore plus de gens, quoi, mais voilà, quoi, c'est ce qu'il y avait. D'ailleurs, c'est ici, au moins il n'y a rien à redire, voilà, on nous fait venir, c'est sympa. Puis on voit les groupes qui passent, il y a des noms qu'on croise et qu'on connaît, qui font des grands voyages aussi. Ça fait plaisir de voir des espaces d'expression pour des groupes de nos acabis, en tout cas en espérant que ça roule.
Et en parlant des groupes que vous croisez, est-ce qu'il y a des collaborations qui se font, des featuring, des projets ensemble?
Ouais, c'est arrivé qu'on fasse des choses comme ça. On avait une période... On a un projet, on l'a fait pour 2-3, enfin pour un one shot d'ailleurs, sur un festival de fanfare, avec une fanfare par exemple, tout réécrire. Et puis sinon les projets avec des organismes style centres sociaux, écoles, etc. Moi je fais pas mal de trucs comme ça. Donc ça, c'est super intéressant aussi à avec des écoles de musique aussi, avec des jeunes au violon, un orchestre à cordes, des choses comme ça. Vu que moi j'ai eu la chance de commencer la musique jeune, mais j'ai eu la malchance de ne pas avoir des gens qui m'ont intéressé en tout cas. Donc j'ai arrêté très très vite. Ouais. Et quand je vois les gamins là, je trouve qu'après un cycle de conservatoire, c'est bien de faire des trucs comme ça, mais il faut que ça ait du sens. À un moment, quand on a 13, 14, 15, 16 ans, il faut que ça ait du sens de continuer à aller faire du violoncelle, quoi. Et donc du coup, c'est là que les passerelles sont importantes, et puis du coup, c'est là que les groupes et les associations de notre style, c'est à nous de sortir la carte de la passerelle, parce que c'est important.
Ouais. Et est-ce que le fait d'être énormément sur scène, parce que vous avez quand même 80 dates par année, ouais, et d'un côté à faire des projets, est-ce que ça vous laisse assez de temps pour produire à côté, pour écrire à côté ?
Non, c'est très dur. Ouais, c'est très dur. Là, on est en pleine réflexion pour faire un petit break de quelques mois, ne serait-ce que quelques mois. Mais le problème, c'est que quelques mois, c'est bizarre, parce que se donner, ça va pas avec l'aspect artistique, se dire on va arrêter de novembre à mars et puis on ramène un album. On arrive en novembre, on est dans un état de « allez hop, c'est parti !» Et en fait, ça se commande pas, donc oui, il faut... Ouais. On va voir, on va peut-être essayer de un tout petit peu moins jouer l'année prochaine et peut-être faire un petit peu moins de projets transversaux avec les IME, tout ça. Voilà, ça nous prend pas mal de temps quand même, on fait des choses cool, mais voilà, il faut peut-être savoir se calmer.
De parler d'IME, est-ce que ça a un rapport avec le projet du coup Singing Gains?
Non, Singing Gains c'est encore autre chose. Non, l'IME c'est juste des petits ateliers musicaux qu'on fait, etc. Mais Singing Gains, c'est pareil, on est venu nous voir il y a quelques années, on a joué pour un truc qui s'appelait Chansigne, et effectivement l'accessibilité, l'accessibilité de toute façon au festival et à la musique. Nous, je reviens quand même. C'est lié forcément, puisque on part du principe, nous, que la musique fait des choses extrêmement positives pour les gens qui ont juste pas la patate, qui ont pas la forme, et puis pour les gens aussi qui ont des handicaps aussi, voilà, pour les gens qui sont malades, enfin voilà, la musique c'est assez, ça peut être, si c'est bien, si c'est utilisé à bon escient, ça peut vraiment être super. Et donc quand on nous a proposé ça, Singing Heads, on a dit oui, banco, bien sûr. Ça va être tout va être traduit donc à Montreux là, tout va être traduit en même temps sur le côté. Donc on a, après voilà, il a fallu s'adapter parce qu'il y a des jeux de mots qui se traduisent pas forcément en jeu de signes, mais en jeu de mains, mais certains d'autres. Mais c'est un exercice sympa en tout cas. Ça nous a plaisir de faire ça, ouais.
Ok. Ouais. Et du coup vous faites, vous êtes en collaboration avec certaines associations.
Ouais. Alors Singing Gains là c'est carrément une association suisse. Qui fait ça, et donc on est sur le projet depuis quelques mois, donc on s'envoie des nouvelles, on échange, ils sont venus nous voir, tout ça, mais c'est vrai que toute l'année on partage un maximum dans la mesure du possible, on essaye de faire partager un petit peu plus, le plus possible nos savoir-faire en tout cas, voilà, si c'en est.
Et cette année, la Guinguette de Blois, c'est une découverte pour vous? C'est la première fois que vous venez?
Ouais, c'est la première fois qu'on vient. Et puis, on avait fait, je crois que c'est Orléans qui doit faire quelque chose aussi sur le bord de la Loire aussi. Et c'est super. Et puis même quand j'ai vu la programmation, tout de suite, on regarde un petit peu qui programme, comment ça fonctionne. Je suis pas trop étonné. Quand je vois ce que fait la maison de Bégon, quoi. Je suis pas trop étonné sur le fait que cette programmation soit là, parce que j'en connais quelques-uns. Je sais que il y a quand même une certaine éthique dans la façon de voir et de faire la musique, donc et de la partager surtout. Donc je trouve ça plutôt super.
Eh ben, merci beaucoup.
Ah, merci à vous.
C'était une très bonne interview.
C'est gentil. Maintenant, je vais voir si je peux faire un très bon goût de guitare.
Bon courage.
Merci.